Il n'y a aucun tombeau qui puisse retenir mon corps. Aucune tombe ne retiendra mon corps. Bon, je ne cite pas en anglais, je vais direct sur la traduction française. Regarde en bas, Gabriel. Alors là, c'est il fait parler Dieu. Regarde en bas, Gabriel. Pose ton pied sur la terre et la mer, mais Gabriel, ne souffle pas dans ta trompette avant que je ne te l'aie demandé. Eh bien, regardez en bas vers la rivière. Que pensez-vous que je vois ? Je vois un groupe d'anges. Alors là, par contre, c'est la personne qui est croyante, donc l'être humain qui est croyant, qui dit « Je vois un groupe d'anges et ils viennent pour moi. Il n'y a aucun tombeau qui puisse retenir mon corps. Quand j'entendrai le son de la trompette, je m'élèverai du sol. Aucun tombeau ne peut retenir mon corps. » Alors ça, c'est un gospel donc, qui a été écrit au départ par un jeune homme noir en 1933 qui était atteint de tuberculose et il s'est dit « Bon, peut-être que la fin est funeste, peut-être que je vais mourir de cette maladie. » Et il a pensé à la résurrection et il a composé donc ce gospel qui parle de la résurrection. Ensuite, Johnny Cash, peut-être que certains d'entre vous connaissent Johnny Cash quand même, donc l'a repris. Et du coup, comme c'était un chanteur de country, ça s'est répandu dans tout le monde de la country music. Et là, donc, c'était une version bluegrass, c'est-à-dire la country du Kentucky. Vous avez remarqué que les habits, les mecs avec les bretelles, le chapeau, ça fait sud des États-Unis profond, là. Hein, ils ont mis les... Voilà. Donc, bluegrass, c'est une des musiques que je préfère parmi toutes celles que... Voilà, donc, je voulais illustrer le sujet de notre jour. On a parlé de repos, on a parlé de... Et le sujet de notre jour, d'aujourd'hui, si les feuilles ne s'envolent pas... C'est la résurrection. Oui, donc voilà le verset. Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Donc ce verset, c'est un passage de la première lettre que Paul a adressée aux chrétiens de la ville grecque de Corinthe. Au moment où il écrit cette lettre, Paul a mal à partir. Oui, il a des problèmes avec cette communauté. Qui est somme toute assez jeune, il doit avoir 4-5 ans, lui il écrit de la ville d'Éphèse. Et cette église, elle semble en pleine crise d'adolescence. Elle est à tel point en crise d'adolescence qu'elle est en rébellion contre son père spirituel, qui est Paul lui-même, que Dieu a utilisé pour créer cette église. Donc, et notre apôtre Paul, donc, dans cette lettre, il reprend point par point toutes les situations problématiques que connaît cette communauté, aussi bien celle qui concerne l'éthique, c'est-à-dire le comportement des croyants de Corinthe, que celle qui concerne la doctrine, c'est-à-dire ce qu'ils ont compris ou pas de la foi chrétienne. Parmi tous les problèmes qu'il a à traiter, Paul aborde au chapitre 5 le sujet de la résurrection, une réalité qu'une partie des chrétiens de Corinthe n'ont pas comprise. Ce problème, d'ailleurs, est un aspect d'un problème plus large qui concerne l'incompréhension que ces Corinthiens ont de la place du corps dans le salut que Dieu donne en Jésus-Christ. Cette incompréhension, d'ailleurs, conduit notamment les uns à un ascétisme rigoureux sur le plan sexuel et d'autres, au contraire, à une totale licence jusqu'à des relations sexuelles avec des prostituées. Bon, la première épître aux Corinthiens, ça part dans tous les sens. Paul, là, il a bossé, je peux vous dire, à Corinthe. C'était dur. Donc, concernant la résurrection des corps, il se peut que la conception que les Grecs avaient du corps dans leur culture ait influencé la façon dont ils pouvaient comprendre ou ne pas comprendre, justement, la résurrection. Le corps, dans la culture traditionnelle des Grecs, il était considéré, entre guillemets, comme la prison de l'âme. Et le salut, pour un Grec, le salut de l'âme consistait justement à se libérer du corps. Donc, on peut comprendre que la résurrection des corps, ça pouvait apparaître comme une notion difficile à appréhender pour les Grecs. Certains d'entre nous qui connaissons déjà la Bible auront peut-être à l'esprit l'épisode durant lequel Paul annonce l'évangile à Athènes, jusqu'au moment où il parle de la résurrection. Et là, ça a un effet, c'est que les Athéniens, c'est pas qu'ils s'atteignirent, mais ils veulent plus du tout entendre Paul en lui disant... Il en pète au casque, le gars. Pourquoi ? Parce que, pour eux, la résurrection des corps, ça paraît complètement absurde. Donc, Notre frère Paul, que Dieu a utilisé pour créer cette église locale de Corinthe, il s'emploie dans cette lettre à redresser les comportements inadéquats de ces chrétiens, ainsi que leurs erreurs doctrinales. Dont cette question de la résurrection, pourquoi ? Parce que cette question de la résurrection, elle est absolument primordiale dans le plan de salut de Dieu. Il est donc capital pour nous aussi, aujourd'hui, chrétiens de Toulouse, du 6 juillet 2025, d'avoir les idées claires en ce qui concerne la résurrection des corps, afin que nous comprenions bien qui nous sommes en Jésus-Christ, ce à quoi Dieu nous appelle, et pour que le témoignage que nous rendons à Jésus-Christ ne soit pas entaché d'erreurs. C'est aussi essentiel par rapport au courage dans le service et à la fermeté dans notre foi que va nous procurer la perspective de la résurrection future, notamment face aux difficultés et, pour certains chrétiens, face à la persécution. Donc, sans la résurrection, le salut en Jésus-Christ n'a aucun sens. La résurrection, c'est l'étape finale du salut. Voilà. Donc, c'est une citation de l'évangile de Jean à plusieurs passages. Jésus, c'est Jésus qui parle. Il dit « Je suis la résurrection et la vie. Telle est la volonté de mon Père, que tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils, c'est-à-dire Jésus, et qui croient en lui, possèdent la vie éternelle. Et moi, donc c'est toujours Jésus qui parle, je les ressusciterai au dernier jour. » Si tu peux passer l'autre. Et voyez, il est écrit « Je les ressusciterai au dernier jour. » Et au son de la dernière trompette, lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront. Vous vous souvenez du chant où il parle de la trompette aussi, le « Ain't no grave, hold my body down ». Donc, dernier jour, dernière trompette, la résurrection arrive en dernier. C'est donc l'étape finale, l'étape ultime du plan de Dieu pour les êtres humains qui sauvent en son Fils Jésus-Christ. Et le moment de la résurrection, le moment de la résurrection se situe au retour de Jésus. Au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, encore une fois la trompette, le Seigneur lui-même descendra du ciel et ceux qui sont morts unis à Christ ressusciteront. Donc, la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16, et ensuite, la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, versets 22 et 23. Tous seront ramenés à la vie du fait de leur union avec Christ. Au moment où il viendra, donc Jésus-Christ, ceux qui lui appartiennent ressusciteront. Alors, la résurrection, c'est l'étape finale du salut, mais c'est aussi le but du salut. C'est ce que Dieu veut faire, finalement, avec chacun de ceux qui croient en lui. Bon, imaginez, certains d'entre nous connaissons les inconnus. Ils appellent les inconnus, mais ils sont très connus. Bon. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire de Manu ? Manu, tu descends. Pourquoi faire ? Allez, tu descends. Pourquoi faire ? Imaginons des chrétiens qui parlent entre eux. Et tu sais que Jésus nous a sauvés ? Pourquoi faire ? Eh bien, pour ressusciter, enfin, tout de même. Et pourquoi faire ? Mais pour être comme Jésus. Voilà, pourquoi faire ? Pour être comme Jésus. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils. Romains 8, 29. Et puis ensuite, première épître de Jean, chapitre 3, verset 2. « Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque Christ paraîtra, nous serons semblables à lui car nous le verrons tel qu'il est. » Donc, arrêtons-nous un moment sur cette réalité. Que signifie être semblable à Jésus lors de la résurrection ? La vie éternelle, donc, elle est synonyme de vie de résurrection. Mais il arrive parfois, chez nos contemporains qui ne connaissent pas la Bible, ou alors ils en ont des notions éparses et souvent fausses, qu'ils expriment une incompréhension ou une compréhension de la vie éternelle très éloignée de la signification que lui en donne le Nouveau Testament. Bon, je passe sur les représentations ridicules qu'on trouve dans certains journaux, vous savez, ou dans certains dessins humoristiques. Voilà, des représentations ridicules du ciel, entre guillemets, où l'on voit les croyants décédés avec des ailes dans le dos, ils jouent de la harpe sur un nuage, ils ont l'air niais, ils sont entourés d'angelots grassouillés, et de temps en temps, il y a Dieu, entre guillemets, représenté en vieillard sénile à longue barbe. Alors si le salut de Dieu, ça devait être ça, je serais le premier à être athée. Il ne s'agit pas du tout de ça, donc. Souvent, donc, cette notion de vie éternelle est confondue avec la simple immortalité. C'est-à-dire la simple... on deviendrait immortel, mais dans la condition présente, c'est-à-dire avec ce que nous sommes aujourd'hui, notre corps présent, ce que nous sommes aujourd'hui, dans le monde présent, tout d'un coup, nous deviendrions immortels. Voilà, nous cesserions de mourir. Je me souviens d'un professeur de français, puisque je travaillais dans un collège, qui était un bon prof d'ailleurs, comme souvent un très bon prof. J'aime beaucoup les professeurs, hein. Ne croyez pas que je suis en train de critiquer les profs. Je travaille avec eux, ils sont géniaux. Je les kiffe, garde. Donc, un jour, il évoque l'épisode du séjour d'Ulysse chez la nymphe Circé dans l'Odyssée d'Homère. Et il glorifie le refus d'Ulysse, le refus par Ulysse, pardon, de l'immortalité que lui offrait Circé. Ulysse assumait ainsi pleinement sa condition d'homme mortel. En passant, ce cher professeur en profitait pour critiquer le christianisme et sa croyance en la résurrection. La même chose aussi avec l'humoriste Blanche Gardin, qui dans son sketch « La vie éternelle » confond résurrection et immortalité, et parmi des considérations diverses, se dit que si nous devions revivre, alors je cite ces mots, hein, « la même merde », entre guillemets, pour reprendre ses propres mots, « que l'on a vécu lors de notre première existence, la vie éternelle, ça ne vaut vraiment pas la peine d'être vécue. » Alors donc, grossière erreur, que de confondre immortalité et vie éternelle que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Évidemment, l'immortalité, elle fait partie de la vie éternelle qui est donnée en Jésus-Christ, dans ce sens que la vie n'aura pas de fin. Donc, d'accord. Mais la vie éternelle comprise comme vie de résurrection en Jésus-Christ renvoie à une autre condition que la condition humaine telle que nous la connaissons aujourd'hui. Pour commencer, le corps de résurrection est un corps glorieux. Il ne connaîtra plus la mort, certes, mais il ne connaîtra plus non plus la maladie, le vieillissement et la dégénérescence. C'est un corps entièrement animé par l'Esprit de Dieu. C'est d'ailleurs par le Saint-Esprit que le Seigneur ressuscitera ceux qui lui appartiennent. Romains 8, verset 11. Un corps glorieux, donc. Un corps spirituel, comme le traduit le théologien Louis II. Donc, là, c'est un Corinthien qui est cité, 1er Épître aux Corinthiens, chapitre 15, du verset 42 au verset 44. « Lorsque le corps est porté en terre comme la graine que l'on sème, il est corruptible et il ressuscite incorruptible. Semé infirme et faible, il ressuscite plein de force et glorieux. Ce que l'on enterre, c'est un corps doué de la seule vie naturelle. Ce qui revit, c'est un corps dans lequel règne l'Esprit de Dieu. » Aussi vrai qu'il existe un corps doté de la seule vie naturelle, il existe aussi un corps régi par l'Esprit. Qu'en est-il du fait d'être semblable au Fils de Dieu, notre Sauveur Jésus-Christ ? Vous aurez remarqué que ce matin, on lit la Bible à l'Église. Des protestants, c'est sérieux avec la Bible. Bon. En réalité, Christ, alors là je cite 1 Corinthiens 15, verset 22-23, verset 45, et Philippiens, chapitre 3, verset 21. En réalité, Christ est bien revenu à la vie, et comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. Cette résurrection s'effectue selon un ordre bien déterminé. Christ est ressuscité en premier lieu, comme le premier fruit de la moisson. Ensuite, au moment où il viendra, donc de son retour, ceux qui lui appartiennent ressusciteront à leur tour. Le dernier Adam, Jésus, est devenu, lui, un être qui, animé par l'Esprit, communique la vie. C'est ce qu'il disait. Ceux qui croient en moi, je les ressusciterai. Pourquoi ? Parce que lui-même, il disait, je suis moi-même la résurrection et la vie. Et donc, la citation de Philippiens, Jésus transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux. C'est en ce sens que nous allons devenir conformes à Jésus, semblables à Jésus. Et c'est ce que Dieu veut. C'est ça le but final de Dieu. Donc, Jésus nous ressuscitera pour que nous revêtions le même corps glorieux que le sien, nous rendant ainsi semblables à lui. Mais quand on a précisé cela, on n'a pas encore tout dit. En effet, imaginons que nous les croyants ressuscitions dans ce corps glorieux, tout en continuant à vivre dans le monde actuel, au milieu d'autres contemporains qui n'ont pas connu la résurrection. Nous serions comme des espèces de super-héros, dotés de super-pouvoirs, évoluant au milieu de gens encore soumis aux aléas de cette vie dans un monde déchu, en but à la haine, aux malheurs de toutes sortes, guerre, pauvreté, malnutrition, maladie, catastrophes naturelles, injustices sociales de toutes sortes, etc., etc., etc. Bon, moi, je ne trouve pas ça attirant, je ne sais pas pour vous. Et d'autre part, ça serait une situation complètement absurde. Ce que Dieu a prévu, c'est bien plus beau, bien plus magnifique, bien plus merveilleux, bien plus sublime. Ces êtres humains que Dieu aura ressuscités dans un corps glorieux et complètement renouvelé, le Seigneur a prévu de les faire vivre sur une terre qui est elle aussi totalement renouvelée. Donc là, on va citer Apocalypse, la fin d'Apocalypse, l'avant-dernier chapitre, les quatre premiers versets, chapitre 21. Donc, puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Alors là, c'est une image de ce que, dans le sens que lui donne la Bible, nous appelons l'Église. Alors, à ne pas confondre avec des grosses structures et des grosses superstructures ou hyperstructures, notamment donc, certaines qui ont leur siège à Rome. Là, on parle de l'Église telle que le Nouveau Testament nous en parle, c'est-à-dire la communauté de tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ et qui sont nés de Dieu par l'Esprit-Saint. Donc, c'est le peuple de Dieu, si vous préférez. Et j'entendis une forte voix venant du trône qui disait « Voici la tente de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront ses peuples et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. » Excusez-moi, hein. Des feuilles récalcitrantes. Par rapport à cette réalité dont nous parlons, nouveau ciel, nouvelle terre, l'apôtre Pierre, dans sa deuxième lettre, affirmait attendre un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Et en tant que croyant, je ne sais pas si pour vous, mais moi aussi j'attends. J'attends ce nouveau ciel et cette nouvelle terre. Ça fait partie de mon attente. Ça fait partie de la foi qui me porte. Et donc il dit, attendre un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera, selon la promesse qui avait été faite des siècles auparavant par le prophète Ésaïe. Il reprend les paroles du prophète Ésaïe. Donc la résurrection, elle implique un corps glorieux, entièrement renouvelé, dans un monde lui aussi glorieux, entièrement renouvelé, dans lequel le malheur et la mort auront totalement disparu. C'est pour cela que dans le monde actuel, nous sommes, nous les croyants, ceux qui sont nés de Dieu par l'Esprit-Saint, tels les témoins du chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Nous sommes des étrangers et voyageurs sur la terre. Nous sommes en route vers la cité céleste. Nous sommes, comme le dit ce passage de l'Épître aux Philippiens, chapitre 3, versets 20 et 21, « Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux. » De là, c'est-à-dire des cieux, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver, car elle transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux par la puissance qui lui permet aussi de tout soumettre à son autorité. Dans ce monde actuel, nous ne faisons que passer. Ce n'est pas notre demeure définitive. La demeure définitive, c'est dans les nouveaux cieux, la nouvelle terre, dans un corps glorifié. Alors maintenant, la résurrection, comment elle peut avoir un impact pour notre foi et notre service? Dans ce chapitre 15 de l'Épître aux Corinthiens, Paul, après avoir loué Dieu pour la victoire totale et définitive que Dieu nous donne sur la mort, la conclusion qu'il donne à tout son exposé sur la résurrection, elle est en forme d'exhortation. Et voilà ce qu'il leur dit à la fin, après leur avoir parlé en détail de la résurrection, de tout ce que cela voulait dire, de tout ce que cela impliquait, etc. Il leur dit, c'est pourquoi mes chers frères et sœurs, soyez fermes, ne vous laissez pas ébranler, travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est pas inutile. Ben oui, travailler sans relâche à l'œuvre de Dieu n'est pas inutile. C'est pour un royaume inébranlable que chaque jour nous nous sanctifions. C'est pour un royaume inébranlable qu'il nous arrive de peiner, de nous fatiguer, et pour beaucoup de nos frères et sœurs en Christ de faire face à la persécution. Le monde futur dans lequel Dieu règnera pleinement n'est pas comme les royaumes et les empires de ce monde appelés à disparaître. C'est un royaume éternel dans lequel la vie s'épanouira dans toute sa plénitude. Rappelez cela à notre âme, dans les moments de fatigue, de difficulté, d'abattement, et pour certains de persécution, doit constituer pour nous un puissant encouragement à persévérer dans la foi et l'œuvre de Dieu, sachant que la fin de toute chose signifie pour nous la délivrance du mal et de la corruption et l'entrée dans la plénitude du salut. Donc cette fois-ci, j'ai fait une conclusion, parce que la dernière fois, je n'avais pas eu le temps. Pour nous donc, la fin de la route dans ce monde n'est pas la fin. C'est le début d'autre chose. Autre chose de totalement nouveau et infiniment sublime. C'est la réalisation finale du « shalom » entre guillemets divin. Un monde où régnera la paix et où la vie s'épanouira dans toute sa plénitude. Sans jamais, ce monde ne sera jamais et cette vie ne seront jamais menacées ou interrompues par quoi que ce soit de mauvais ou de funeste. Et dans nos moments de doute, d'abattement, de découragement, lorsque nous sommes en butte aux difficultés de ce monde, relevons la tête et fixons nos yeux sur ce qui vient à la fin de notre périple terrestre. La seule et unique perspective qui s'offre à nous, donc je répète, la seule et unique perspective qui s'offre à nous est un magnifique et glorieux happy end, préparé par notre Père Céleste et notre Sauveur Jésus-Christ. Notre Sauveur Jésus-Christ qui a préparé pour ceux qui ont placé leur confiance en lui une place dans la maison de son Père. Amen.